les hommes qui sont avec David sont eux aussi victimes de l'acharnement de Saül. À cause du roi, ils sont pourchassés, menacés, continuellement errants. Leur vie aussi est en danger. Alors comment interprète-t-il le fait que Saül soit là, seul et sans défense, dans la grotte où ils sont rassemblés? Entre parenthèses, quand il est dit que Saül est dans la grotte pour se couvrir les pieds, il s'agit d'un euphémisme pour satisfaire un besoin naturel. Alors, cet homme, le roi Saül, dans cette situation, semble comme dépourvu de sa dignité et comme entre les mains de David. Alors pour eux, c'est un signe. Cet événement favorable est la preuve que Dieu lui-même livre entre les mains de David son ennemi. Alors leur conseil est simple. Ne rate pas, David, cette occasion providentielle. Profite de cette situation inespérée en te débarrassant de ton ennemi juré. Et en agissant ainsi, eh bien, tu protèges ta vie, c'est un état de légitime défense, tu protèges ta vie et tu protèges la nôtre. Après, tu seras tranquille, après, tu pourras régner sur Israël comme Dieu te l'a promis à travers la prophétie et l'onction du prophète Samuel. Cette façon de voir des hommes de David présente bien ce conseil à l'apparence de la sagesse. Il semble raisonnable à vue humaine. Pourtant, il ne correspond pas du tout au dessein de Dieu. Cela nous montre que l'homme, même profondément croyant, a toujours tendance à interpréter les événements dans le sens qui lui est favorable. Combien de fois Dieu est invoqué pour justifier nos comportements, pour confirmer tout ce qui va dans le sens de nos désirs et de nos intérêts. Derrière la suggestion des compagnons de David, finalement, nous retrouvons les partisans de la loi du talion, de toutes les époques, œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Mais dans le récit, il y a cette particularité troublante qu'elle se donne une justification religieuse. C'est Dieu qui est là pour toi et qui te donne l'occasion de te venger. Si nous adaptons cette attitude à notre époque et à nos vies, eh bien nous pouvons voir qu'aujourd'hui encore, dans tant de situations de conflit, que ce soit des divorces, des problèmes de garde d'enfants, des querelles d'héritage, des procès de voisinage ou des conflits du travail, etc., eh bien, dans toutes ces situations de conflit, il y a ceux qui sont comme les proches de David et qui nous incitent à agir avec dureté, à rendre coup pour coup, au nom de la justice ou même au nom d'autres valeurs. Il y a toujours des partisans du règlement de compte sans faire de cadeau à l'adversaire, et qu'ils essaient même de se justifier sur un plan plus ou moins spirituel. Dans certains cas, on va même jusqu'à manipuler l'Évangile ou les paroles de Jésus pour protéger ses propres intérêts. Posons-nous cette question. Y a-t-il autour de nous des personnes qui sont un peu comme ses proches, ses amis, ses conseillers de David, qui nous donne de bien mauvais conseils? Toujours dans cette deuxième grande partie, la magnanimité de David, nous allons aborder une troisième partie, le choix de David, qui est exprimé dans les versets 5 à 8. David exprime sa position dans le verset 7. « Le Seigneur me garde d'agir, dit-il, à l'égard de mon Seigneur, de porter la main sur lui, car il est loin le Messie du Seigneur. » David, lui, se place dans une autre perspective. Il se place sous le regard de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si le mot « Seigneur » est nommé à deux reprises dans ce seul verset. Sa perspective à lui est différente de celle de ses compagnons. Il ne voit pas d'abord en Saül un ennemi. Il ne voit pas d'abord en lui une proie. Mais il voit celui qui a été sacré roi d'Israël. Il voit le Messie du Seigneur.